Chers amis, bonjour. Après avoir abordé avec vous de façon plutôt avec un grand angle la question de la vie par l'esprit, j'aimerais, ce n'était pas annoncé dans votre programme, aborder, faire un zoom sur une question particulière qui fera plaisir, je pense, au moins à l'un d'entre vous, c'est la prière. Vous voyez de qui je veux parler, n'est-ce pas ? Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, à partir du verset 18. Romains, chapitre 8, à partir du verset 18. J'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. C'est en effet cette révélation des fils de Dieu que la création attend avec un ardent désir, car la création a été soumise au pouvoir de la fragilité. Cela ne s'est pas produit de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Il lui a toutefois donné une espérance. C'est que la création elle-même sera délivrée de la puissance de corruption qui l'a servie pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Nous le savons bien, en effet, jusqu'à présent, la création tout entière est unie dans un profond gémissement et dans les douleurs d'un enfantement. Elle n'est pas seule à gémir. Car nous aussi qui avons reçu l'Esprit comme avant-goût de la gloire, nous gémissons du fond du cœur en attendant d'être pleinement établis dans notre condition de fils adoptif de Dieu quand notre corps sera délivré. Car nous sommes sauvés, mais c'est en espérance. Or, voir ce que l'on espère, ce n'est plus espérer. Qui, en effet, continue à espérer ce qu'il voit. Mais si nous ne voyons pas ce que nous espérons, nous l'attendons avec persévérance. De même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Et Dieu, qui scrute les cœurs, sait ce vers quoi tend l'esprit, car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède pour ceux qui appartiennent à Dieu. Nous arrêtons là notre lecture. Chers amis, en maints endroits de l'Écriture, nous sommes avertis que vivre en disciple du Christ comporte des difficultés. C'est ce que dit précisément notre texte quand il explique que l'espérance chrétienne nous a introduits dans une situation de tension assez forte entre ce que nous avons déjà, l'Esprit Saint, qui habite en nous comme une première part des dons de Dieu, un acompte de la réalité future, et ce qui nous manque encore, et que nous appelons de tous nos voeux la délivrance de cette existence mortelle et pécheresse pour une vie éternelle dans la présence bénie de Dieu. Une tension qui se manifeste de bien des manières dans notre vie spirituelle et qui atteint particulièrement le cœur de notre relation avec Dieu, la prière. Comblé par la grâce de Dieu, dépositaire des plus magnifiques promesses, nous nous découvrons incapables de répondre, ne serait-ce que par notre bouche, à un amour si grand. Notre reconnaissance est souvent maladroite. Notre confiance hésitante, nos demandes inadaptées. En un mot, il semble, mes amis, que nous ne sachions pas prier. S'il vous arrive d'être accablé par ce sentiment d'incapacité, alors le message que je vous donne est pour vous. Vous n'êtes pas seul. Car comme le dit l'apôtre Paul, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse. Quant aux autres qui n'ont jamais eu le sentiment d'être maladroits hésitants ou déplacés dans leur prière, il leur faut entendre quand même que l'aide du Saint-Esprit est pourtant indispensable pour eux aussi. La première chose que nous apprend ce texte, mes amis, c'est que nous sommes dans une incapacité totale à prier. Vraiment ? Serions-nous vraiment incapables de prier comme je viens de le laisser entendre ? Honnêtement, notre orgueil rechigne à le croire, d'autant que nous savons très bien demander à Dieu ce dont nous avons besoin, louer sa grandeur, intercéder pour nos proches. Mais à entendre l'Écriture, le verdict est nettement moins flatteur. Paul parle d'une faiblesse en ces termes: l'Esprit vient au secours de notre faiblesse car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Ou bien dans une autre traduction, nous ne savons pas comment il faut prier. Le texte original désigne une incapacité assez large. Non seulement nous ne savons pas ce qu'il faut demander, quel sujet aborder dans notre prière, mais encore nous ne savons pas comment le demander. Et nous avons tous fait l'expérience de cette double infirmité à un moment ou à un autre de notre vie de prière. Les pensées qui vagabondent dès que nous nous mettons à prier, sans parler d'une irrépressible envie de dormir. L'incapacité à formuler une quelconque prière dans certaines épreuves de la vie. Il m'est arrivé, au fort de la dépression, de ne pas pouvoir aligner deux mots dans ma prière. La difficulté à persévérer et même à savoir comment intercéder quand les situations sont inextricables. À propos des pensées qui vagabondent, on raconte qu'un rabbin du nom de Baal Shem Tov a fait cette réponse à ses disciples qui demandaient comment reconnaître la sagesse d'un homme qu'ils allaient rencontrer. Et voici la réponse du rabbin. Demandez-lui ce qu'il faut faire pour éviter à nos pensées de s'échapper pendant qu'on est en prière. S'il répond à votre question avec un bel enseignement, alors vous saurez qu'il n'est pas honnête. C'est en effet le problème de l'homme de prière jusqu'à l'heure de sa mort. Combattre jour après jour les pensées vagabondes afin de maintenir son attention sur la seule personne de Dieu. Autant d'expériences dont l'Écriture nous invite à tirer une conclusion logique et humiliante, mes amis. Nous ne savons pas prier Dieu comme il le veut. Nous en sommes totalement incapables. La parole de Dieu veut nous arracher cette dernière illusion à laquelle nous nous accrochons parfois comme au seul mérite que nous aurions dans notre relation avec lui. Il a tout fait, certes, mais au moins nous savons lui dire merci, lui faire confiance, l'intercéder. Eh bien non. Même prier, nous ne savons pas. Un auteur anglais du nom de Cranfield résume bien le sens du passage à ce propos quand il dit « Toute la prière des chrétiens, dans la mesure où c'est leur prière, demeure sous le signe de ce non-savoir, l'ignorance effective, de la faiblesse et de la pauvreté. Même dans leur prière, ils ne vivent que par la justification divine des pécheurs. Même dans la prière, ils ne vivent que par la justification divine des pécheurs. » Voilà une source de tension de la vie avec Christ. Plus nous avançons et plus nous perdons d'illusions sur nous-mêmes. Et cela fait mal, car on ne meurt pas à soi-même sans douleur, mes amis. Derrière les élans généreux de nos prières, on discerne peu à peu des motifs obscurs. Le besoin de paraître devant les autres, le besoin de protéger ses intérêts, de défendre sa volonté plutôt que celle de Dieu, plutôt que d'accepter celle de Dieu. La prière d'un enfant par sa candeur peut nous aider à discerner l'un de ces motifs obscurs, le besoin de protéger nos intérêts. Écoutez, un enfant terrible ne se calmait guère que le soir au moment de faire sa prière. Un soir, un ami de ses malheureux parents venu à la maison l'interrogea. « Sans doute pries-tu Dieu de te rendre plus sage ?»« Non, répondit l'enfant, je lui demande de rendre maman plus patiente. » Ainsi, mes amis, bien souvent, nous demandons à Dieu de transformer ceux qui nous posent des problèmes au lieu de le prier de changer notre cœur à nous. Prendre conscience de cette incapacité nous libère aussi. Nous n'avons pas à rivaliser entre nous à ce sujet, à jouer aux hommes et aux femmes de prière. Nous pouvons nous approcher du Père paisiblement. Il sait que nous sommes poussière et que nos prières sont marquées par notre infirmité. Mais ce n'est pas tout. Il y a le secours précieux du Saint-Esprit. La bonne nouvelle de l'Écriture, c'est qu'elle ne se contente pas de poser un verdict réaliste et à certains égards désespérant. Elle propose un remède à notre incapacité. Et ce remède, c'est le secours de l'Esprit-Saint. Jusque dans la prière, cette réponse que nous apportons à l'amour de Dieu, c'est Dieu qui vient à notre aide par le Saint-Esprit. Et ce qui fait dire à Henri Blocher, nous avons aussi besoin de Dieu pour faire notre part, nous avons aussi besoin de la grâce pour répondre à la grâce. Le Saint-Esprit nous vient en aide de deux manières. Il produit en nous le vouloir et le faire d'une juste prière. Il nous donne de dire vraiment Père à Dieu. Je cite Paul, « C'est l'Esprit-Saint qui fait de vous des enfants de Dieu et qui nous permet de crier à Dieu « Abba, Père ». La deuxième manière par laquelle le Saint-Esprit nous vient en aide, et c'est surtout cette manière-là dont je voudrais parler, c'est la révélation extraordinaire de ce passage. Il prie le Saint-Esprit lui aussi. Quand nous soupirons, il soupire avec nous. Quand nous intercédons, il intercède aussi. Ou plus exactement, il sur-intercède. C'est-à-dire que le Saint-Esprit enveloppe, englobe, assume nos prières, remédie à leurs carences et corrige leurs écarts. Extraordinaire révélation qu'aucun homme n'aurait pu inventer. Dieu prie Dieu par le Saint-Esprit qui nous habite et se met de notre côté dans l'intercession. Nous sommes incapables, certes, mais lui est capable. Et c'est là toute notre consolation, mes amis. Une remarque toutefois. Cela ne constitue pas un oreiller de paresse. Le Saint-Esprit sur-prie, sur-intercède, vous avez compris. Il ne prie pas à notre place, il accompagne notre prière. Troisième vérité, l'assurance bienfaisante, à cause de cela, de l'écoute de Dieu. De cette révélation extraordinaire du Saint-Esprit qui sur-intercède quand nous prions, procède d'une assurance bienfaisante, voici ce que dit le texte, et Dieu, qui scrute les cœurs, sait ce vers quoi tend l'Esprit, car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède pour ceux qui appartiennent à Dieu. Notre conviction quant à l'exaucement de la prière, c'est que Dieu entend toujours nos requêtes et y répond dans la mesure où elles se conforment à sa volonté. Toute notre difficulté consiste à apprendre à prier selon la volonté de Dieu. Une volonté dont nous ne discernons pas toujours la précision dans le détail de nos vies. Et cette ignorance relative nous conduit parfois au découragement, ou au doute, ou à la résignation. Elle peut même nous ôter jusqu'à l'envie de demander. Ne sachant ni que dire, ni comment le dire, nous renonçons à parler au Seigneur. C'est ici, mes amis, que le secours de l'Esprit nous encourage non seulement à persévérer dans la prière, mais aussi à être sûr que ce dont nous avons profondément besoin nous sera accordé. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit qui surintercède le fait en parfait accord avec le Père, ce qui garantit l'exaucement de la prière. Henri Blocher exprime ainsi cette assurance. De même que la diversité des personnes dans la Trinité rend possible que Dieu le Saint-Esprit soupire et prie avec nous, l'accord parfait avec lui-même du Dieu unique garantit l'accomplissement de ses vœux. L'espérance que nous avons mise en Dieu, c'est le sujet de ce passage, ne sera pas déçue, mes amis. Sa présence ne nous fera jamais défaut. Son soutien dans l'épreuve ne nous manquera pas. Sa parole sera toujours honorée. Et bientôt, bientôt, nos soupirs de douleur laisseront place à un chant de joie pour l'éternité. Que cette parole résonne dans nos cœurs tout au long des semaines qui viennent. Et si possible, mes amis, tout au long de notre marche avec Christ. Qu'elle encourage les plus timides ou les plus déçus à ouvrir encore et toujours la bouche devant Dieu. Qu'elle apaise nos craintes et nous encourage à parler régulièrement au Père, même dans la difficulté, même quand nous avons peur, même quand la peine nous étreint. Vous savez, que les mots viennent facilement ou pas, que vous soyez seul ou en public, ne vous découragez pas. Le Saint-Esprit prie aussi avec vous et pour vous. Je pourrais juste vous donner le témoignage d'une femme qui s'est convertie d'une façon assez étonnante dans notre église. Elle est venue habiter à 50 mètres de l'église. Et puis, elle est passée devant notre église un peu avant Noël, et figurez-vous que c'était la sortie du culte et qu'elle a trouvé là une dame chez qui elle avait suivi des études bibliques 20 ans auparavant. Donc surprise, discussion, invitation à la fête de Noël, et cette femme qui avait commencé à s'ouvrir aux vérités de l'Évangile s'est donnée au Christ. Et alors elle a amené un vent de fraîcheur dans l'église. Parce qu'elle n'avait pas notre façon empruntée de prier ou stéréotypée de prier. Je me souviens très bien, une des premières fois où elle a prié, elle a dit de façon un peu hésitante, « Seigneur, moi je ne sais pas trop quoi dire dans la prière, mais je t'aime. Amen. » Et ça nous a fait un bien fou. Que la réalité du Saint-Esprit qui surintercède nous accompagne, mes amis, dans l'épreuve. Vous savez, quand le bout du tunnel semble ne jamais venir, quand une requête importante semble ne jamais avoir de réponse, quand nous sommes lassés, car le Saint-Esprit nous accompagne et garantit que le Seigneur ne nous fera jamais défaut, que son espérance ne trompe pas. La vie par l'Esprit est exigeante, je crois vous l'avoir montré. Mais, et c'est ce que je voudrais vous dire ce matin, nous y bénéficions d'un secours inestimable, celui de Dieu lui-même, en la troisième personne de la Trinité. Même dans la dimension la plus intime de notre relation avec le Seigneur, nous ne sommes pas livrés à la solitude de nos limites et de nos imperfections. Il nous secourt. Il se fait dans le même temps le témoin avocat du Christ, le paraclet, quand nous doutons. Marchons donc avec confiance à la suite de notre Sauveur et laissons son esprit régner sur notre cœur. Je vous invite à répondre par une prière, et par une prière chantée. Une prière que nous allons chanter tous ensemble. Seigneur, attire mon cœur à toi. Nous restons assis pour chanter dans un esprit de recueillement. Amen. Alors il m'appartient maintenant de vous adresser un mot d'ordre. Alors je le fais avec un certain tremblement, d'abord parce que je ne peux pas prétendre vous connaître et donc être parfaitement pertinent. Et si jamais vous vous disiez à l'un ou l'autre moment, « Oh, mais il nous dit ça, mais il ne nous connaît pas, nous le faisons déjà », alors veuillez simplement le mettre sur le compte de mon ignorance. J'ai eu un jour une leçon assez forte lors d'une rencontre internationale baptiste. J'étais en Australie et nous nous retrouvions avec plusieurs secrétaires généraux de différents pays et j'ai rencontré le secrétaire général des églises baptistes du Mizoram. Apparemment, personne ne connaît. Le Mizoram est un des petits états de l'Inde complètement à l'est, qui est en fait pris en enclave entre la Birmanie et le Bangladesh. Je ne connaissais pas non plus, hein, pour vous rassurer. Et ce secrétaire général nous partageait la vision de son union d'église. Il nous disait qu'il y avait environ 400 églises, hein, pour 1 million d'habitants, je vous laisse imaginer, c'est énorme, 400 églises. Et il nous disait, et nous envoyons 450 missionnaires hors de notre État. Ah, je lui dis, explique-moi. Comment pouvez-vous envoyer, soutenir 450 missionnaires avec à peine 400 églises ? Ah, il m'a répondu, bah, tu sais, Étienne, nous avons décidé, lorsque nous avons implanté nos églises, notre vision, ça a été de dire que toutes les églises donneraient la moitié de leur budget pour la mission. Alors, à ce moment-là, j'étais secrétaire général d'une fédération baptiste qui comptait 120 communautés et soutenait péniblement 3 missionnaires. Et si vous ajoutez à ça que le niveau de vie des membres de nos églises est à peu près 100, au moins 100 fois supérieur à celui des membres de ces églises, vous comprenez la leçon que j'ai prise. Qu'est-ce que j'essaye de vous dire par là ? La première chose, j'en ai 5, je voudrais vous dire, investissez pour l'avancement du règne de Dieu en France et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous savez, tous les missiologues observent avec raison que les églises ont tendance à gérer leur vie, et les chrétiens aussi, de façon intéressée, non gratuite, comme nous le commande pourtant l'Évangile. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Mais si vous y réfléchissez un peu, nous donnons beaucoup pour des choses qui nous reviennent. La gratuité dans les dons n'est pas si fréquente que cela, même dans l'Église. Nous donnons pour ce qui nous fait plaisir. Nous voulons bien donner une cotisation à l'entente évangélique pourvu qu'elle rende un bon service, n'est-ce pas ? Sinon, je laisse 3 points de suspension. Nous gardons jalousement les ressources humaines que nous avons. Il ne faudrait quand même pas qu'on nous pique nos jeunes. Et au fond, je me demande si nous ne croyons pas d'une façon théorique et abstraite ce que Jésus nous dit dans Matthieu 6. Faites donc du règne de Dieu et de tout ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est, je pense, la chose la plus difficile à vivre dans la durée. Et je ne suis pas sûr qu'elle soit si fréquente que cela dans nos communautés. Mais là encore, si je fais erreur, pardonnez-moi. Deuxième appel, investissez, vous n'allez pas être surpris, hein, investissez dans la formation de vos responsables. Et je dirais même exiger la meilleure formation pour les meilleurs d'entre eux. Je ne fais pas partie de ceux qui croient qu'il faut que tout le monde aille à la faculté libre de théologie évangélique ou à l'Institut biblique de Nogent. Je pense qu'il est nécessaire qu'il y ait parmi les responsables une diversité de formations. Mais il est nécessaire que les meilleurs puissent avoir aussi la meilleure formation. Nous avons besoin de filières d'excellence dans la formation théologique et pastorale. Ce qui veut dire qu'il nous faut apprendre à mettre à part pour quelques années, nous priver pendant quelques années de ceux qui pourtant pourraient tant faire dans notre communauté locale ou dans notre union. l'échec dans les études de quelques-uns des étudiants que j'ai, c'est que les églises ne veulent pas admettre que le temps de la formation est un temps où ils ne peuvent plus donner le même investissement dans l'église locale. Il le faut pourtant, mes amis. Et il y a d'ailleurs une chose curieuse dans nos milieux, c'est que généralement nous considérons comme évident que pour réussir dans la vie, il faut faire de longues études. Puis quand nous passons à l'église, ça semble quelque chose qui n'est plus de mise. Le Seigneur pourrait-il se contenter de nos restes? Je vous laisse là votre réflexion. Troisième interpellation, libérez les énergies dans vos communautés. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, encouragez vos jeunes à s'investir dans l'église en leur faisant de la place. Ce n'est pas la peine de pleurer depuis la chair qu'il n'y a pas de jeunes qui ne font pas ceci, ils ne font pas cela. Faites-leur de la place. Ça veut dire quoi? Eh bien, acceptez leurs erreurs déjà. Je voudrais vous raconter une petite anecdote. Une église que je connais bien a prié. Elle est à mi-chemin entre une cité pavillonnaire, enfin un quartier résidentiel et une cité difficile. Elle a prié cette église pour qu'elle puisse toucher le quartier difficile. Et Dieu a répondu à la prière. Et les membres se sont demandé s'ils avaient bien fait de prier. Vous savez pourquoi? Parce que quand les jeunes, une dizaine de jeunes du quartier sont venus au culte, ils ont été au culte comme ils étaient ailleurs. C'est-à-dire que quand ça leur plaisait, ils applaudissaient. Et quand ça ne leur plaisait pas, ils sifflaient. Vous allez dire qu'elle manque de savoir-vivre, mais ils faisaient pareil en classe, donc ils ne voyaient pas où était le problème. Il faut faire de la place à la jeune génération en acceptant qu'elle fasse des erreurs, en encourageant sa créativité, en accompagnant les initiatives, pas en commençant à leur dire « il y a tout ça qu'il ne faut pas faire ». Vous savez, j'ai découvert dans mon contact avec les missionnaires anglo-saxons que nous sommes dans une culture qui n'est pas encourageante. Vous ne l'avez pas encore remarqué? Alors il est temps. Ma femme m'a d'ailleurs fait observer que moi-même, je n'étais pas encourageant. Que j'avais tendance à dire à mon fils, qui pourtant réussissait bien à l'école, « c'est pas mal ». Au lieu de lui dire « mais c'est bien ». Et là, mes amis, si vous avez en votre sein, soit dans les responsables, soit dans les membres d'église, des gens d'un arrière-plan différent, en particulier américain ou britannique, profitez du fait qu'ils ont une culture d'encouragement plus affirmée, dont nous avons besoin. Mais mes amis, si vous voulez libérer les énergies dans vos communautés, il faut aussi accepter quelque chose de douloureux. C'est qu'il faut savoir passer la main. Et que, alors je ne connais pas les CAEF, mais je connais bien les baptistes, j'ai vu des églises mourir, parce que les anciens, dans les deux sens du terme, si vous voyez ce que je veux dire, ne voulaient pas lâcher. Et c'est un drame. Quatrième chose que j'aimerais vous dire, restez fidèles à l'Écriture, mes amis. Je perçois dans le monde évangélique en général plusieurs difficultés auxquelles nous devons être attentifs. Avec la croissance du monde évangélique, il y a parmi nous un désir de notabilité qui apparaît. Qu'est-ce que j'entends par là? Ben, on voudrait quand même ne pas trop trancher avec la société pour ne pas écorner notre image. Et du coup, il y a parmi nous une certaine érosion des standards éthiques. J'ai signalé ce matin dans l'atelier, mais je le redis ici, que dans une étude de l'IFOP en 2010, les évangéliques, sur l'ensemble du protestantisme, il y avait deux chiffres sur les évangéliques qui me laissent songeur. Il y en avait un qui disait que 15% des évangéliques ne voyaient pas de problème à la pratique homosexuelle et 60% qui ne voyaient pas de problème à l'euthanasie. Donc je ne parle pas de choses rêvées. Malheureusement, il y a une érosion des standards éthiques, y compris dans nos propres communautés. Il y a une deuxième chose, c'est qu'il y a une perméabilité aux modes. Il ne faut pas croire que nous en soyons indemnes. Et il y a une mode en particulier auquel nous sommes très, très sensibles, c'est le fait d'aller vite et de bourrer nos programmes. Je ne suis pas sûr que ce soit toujours l'expression de la sainteté. Je sens que ma femme va me dire que je devrais bien écouter ce que j'ai dit. De temps en temps, il faut prendre du temps, parfois quelques années, pour que des projets mûrissent, pour que des formations existent. Et il faut l'accepter. Le temps du Seigneur n'est pas toujours le nôtre, mes amis. Et je vois deux fronts doctrinaux sur lesquels il nous faut rester vigilants, parce que dans le monde évangélique, c'est parfois contesté. Le premier, c'est l'inhérence biblique, la fiabilité de la parole de Dieu, et parfois une conception qui est mise en cause, y compris dans nos milieux. Et l'autre, c'est la substitution pénale, l'idée que Christ est mort à notre place à la croix. Alors, c'est un débat qui est surtout présent en Grande-Bretagne et aux États-Unis, mais il vient. Il vient et ça touche à l'œuvre du Christ et c'est extrêmement sérieux. Dernière chose que j'aimerais vous dire, prions les uns pour les autres. Évidemment, je parle ici en tant que président du Conseil national des évangéliques de France. Avant de dire que les autres sont moins bien que nous, ou qu'ils ont tel et tel risque, prions pour eux. Nous avons besoin de vos prières, là, je parle en baptiste. Et vous avez besoin des nôtres. En particulier, dans une chose qui me tient à cœur, c'est dans l'audace du témoignage. Restez percutant dans notre témoignage. Audacieux n'est pas si simple. Il nous faut accepter, mes amis, y compris d'être mal vu, pour continuer à dire qu'en dehors de Christ, il n'y a pas de salut. Alors je reconnais que notre pays n'est pas toujours simple. Et j'ai eu des débats homériques quand j'étais secrétaire général de la Fédération Baptiste avec mes homologues qu'on appelle les Baptistes du Sud, quand on entend par là les Baptistes du Sud des États-Unis, parce qu'en gros, ils disaient que puisqu'il n'y avait pas assez de conversions en France, il valait mieux aller en Ukraine ou en Russie. Et moi, je leur répondais que la question n'était pas de savoir combien de convertis il y avait par dollar investi, mais de savoir si nous étions à notre place. Et je rajoutais, je ne peux pas vous promettre des centaines de conversions, je l'aimerais, mais je ne peux pas vous le promettre. Je ne peux vous promettre qu'une chose, c'est du sang et des larmes. Et je pense que malgré qu'il y ait ou non des résultats, nous devons rester fidèles et nous avons besoin de la prière les uns pour les autres. Je voudrais vous laisser un verset qui a été, quand j'étais pasteur, pour moi un encouragement. Je vous ai parlé de ces deux petites églises dont j'étais le pasteur, où j'ai baptisé beaucoup de jeunes, mais comme il n'y avait pas de travail dans la ville, ils allaient à Toulouse. Et donc à la fin, après en avoir baptisé 19, il m'en restait un, et je pense que ce n'était pas un jeune d'ailleurs. Il y a une parole qui m'est restée, qui m'a aidé à tenir ferme, c'est celle que Jésus donne à Paul à Corinthe. Je vous lis. « Une nuit, dit Paul, le Seigneur lui-même parla à Paul dans une vision. « N'aie pas peur, lui dit-il. Parle et ne te tais pas. Je suis avec toi. » personne ne pourra s'attaquer à toi pour te faire du mal. Car il y a dans cette ville un peuple nombreux qui m'appartient. Il y a dans ce pays un peuple nombreux qui appartient au Seigneur. Nous ne le voyons pas encore, mais il est là. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.